16h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure c'est la vôtre, on va parler pendant une heure d'un moment qui peut bouleverser une vie, celui où l'on croise la mort, une rencontre à laquelle on n'est jamais préparé. Ça vous tombe dessus lors d'un accident de voiture, d'une crise cardiaque, d'une agression ou plus grave encore, d'un attentat. Elle fait irruption dans notre vie, alors que jusque-là, elle n'était qu'une idée, un concept profondément enfoui en nous et qu'on se gardait bien d'interroger ou de titiller. Et voilà qu'on voit le gouffre de près, sidération, terreur, effroi. Et une fois ce moment passé, pas forcément atteint physiquement, nous voilà différents, incapables de reprendre le cours de nos vies, avec ce sentiment étrange de décalage par rapport aux autres, ceux qui continuent à vivre, à travailler ou faire leurs courses. Et nous sommes nombreux à avoir vécu ce sentiment d'imminence de la mort. En France, 2 à 3 millions de personnes vivent après un cancer, des milliers ont eu un accident de voiture, des centaines ont survécu aux attentats du 13 novembre. Et pourtant la vie continue. Certains savent faire quelque chose de cet événement qui est entré chez nous, en nous par effraction, d'autres pas. Pourquoi frôler la mort transforme-t-il notre vie ? Comment s'en remettre ? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous, nous sommes là pour vous écouter.
Et pour joindre Ève Roger, appelez-nous au standard d'Europe 1, le 3921, 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez donc nous laisser votre petit message auprès de Benjamin. Et puis vos commentaires sont les bienvenus également sur les réseaux sociaux. Twitter avec le hashtag Europe 1 et la page Facebook de l'émission Partageons nos expériences de vie.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Pas de vengeance, pas de sourire forcé, Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée, Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire.
Dieu dise, un extrait d'un titre de L'Homme Pâle. On l'aime beaucoup ici à Europe 1. Il aurait pu témoigner dans votre émission, F, puisque il a failli mourir il y a quelques mois dans un accident de voiture en vacances à l'île Maurice, comme il le racontait d'ailleurs dans un article du Parisien en janvier dernier. Mais place tout de suite à votre premier témoignage, Ève Roger.
Bonjour Pierre, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous, Pierre, et d'où nous appelez-vous ?
Alors moi, j'ai 48 ans aujourd'hui. Je vous appelle de Nouvelle-Calédonie, Nouméa.
Alors vous, Pierre, donc vous habitez en Nouvelle-Calédonie et il y a 3 ans, vous avez croisé la route d'un requin alors que vous faisiez du kitesurf. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Eh bien oui, je peux tout à fait vous raconter. Donc ça s'est passé il y a 3 ans au mois de juin et j'étais en train de finir ma session de foil parce que j'étais en foil. C'est un kitesurf monté sur un mât en carbone qui fait que la planche sort de l'eau. Donc j'étais en foil et en fait, sur la fin de la session, je fais un dernier bord et quand j'arrive au large, je devais être à 500 mètres du bord à peu près, je fais un jibe, c'est-à-dire un demi-tour, et j'étais donc debout sur la planche, mais comme on perd de la vitesse, la planche est redescendue pour se retrouver sur l'eau. Et là, il y a un requin bulldog, donc qui devait être dans les quelques dizaines de mètres alentour, qui a, à mon avis, confondu avec un oiseau qui se posait à la surface. Et il est venu attaquer ce qui pensait être un oiseau à la surface. Donc en fait, il est venu, il m'a attaqué par derrière, il a croqué la planche. Et moi, j'étais donc debout sur la planche et au passage, il m'a croqué l'arrière du pied. Donc,
et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'ai senti un choc parce qu'il arrivait plein de cales. Donc il était lancé comme un taureau. Et comme il faisait 300 kilos à peu près, je me suis retrouvé envoyé valser en l'air parce que ça m'a fait bien sûr tomber du foil. Je suis tombé 2-3 mètres plus loin. Et comme j'avais rien vu venir du tout, j'ai pensé sur le moment que c'était un bateau qui m'avait percuté. Mmh. J'étais un peu surpris parce que j'avais pas vu de bateau, mais j'étais sûr que c'était un bateau tellement le choc était violent, quoi. Et donc je me suis retrouvé dans l'eau avec de l'eau jusqu'au niveau du menton. Et là, j'ai retourné la tête et c'est là où j'ai vu qu'en fait, il revenait me voir. Et je me suis retrouvé avec l'aileron qui était à 3 mètres de moi et la gueule au bout du bras, un face-à-face assez pétrifiant, on pourrait dire.
Donc c'est à ce moment-là que vous avez cru mourir ?
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais mourir, ça c'était clair, ça faisait plus aucun doute là. Parce que je savais que j'étais chez lui, qu'il faisait ce qu'il voulait de moi et qu'il m'avait déjà attaqué une fois. Et quand j'ai vu que c'était un gros, parce que j'ai vu la taille de l'aileron, j'ai vu le dos qui sortait de la surface, j'ai vu que c'était un gros, là, le cerveau a enregistré directement que j'étais mort, là, il n'y avait plus de doute possible, quoi.
Est-ce que vous avez pensé à autre chose que le requin à ce moment-là ? Je sais pas, est-ce que vous avez vu votre vie défiler comme on voit dans les films ?
Non, justement, il n'y a pas de tout ça parce que ça se passe tellement vite que, en fait, le cerveau enregistre directement qu'on est mort. Donc là, il y a une grosse prise de conscience qui est un peu terrible, on pourrait dire. Et comme je savais tout à fait que c'était un requin parce que je l'avais au bout du bras, donc il n'y avait aucun doute possible. Et en fait, dans le même quart de seconde ou dans le quart de seconde suivant, il y a un réflexe qui est intéressant, qui est vraiment particulier, qui était complètement insoupçonné, c'est qu'il y a une espèce de cri de survie qui m'est venu, qui m'est monté du plus profond de moi-même, et je me suis mis à lui hurler dessus. Et heureusement, mon aile était restée en l'air, et en fait, en même temps, par réflexe, j'ai balancé mon aile pour m'éloigner de lui.
Et donc, en fait, vous l'avez fait fuir.
Non, je suis pas sûr qu'on puisse dire que je l'ai fait fuir. Je pense que, en fait, c'est un réflexe que j'ai eu moi, qui allait avec le fait que j'allais partir pour m'éloigner le plus vite possible. Mais je pense que j'étais clairement chez lui, il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Donc lui, à mon avis, il s'était déjà pété les dents sur ma planche. Quand je suis tombé dans l'eau, il a vu que j'étais pas un oiseau, donc j'étais pas la cible qu'il imaginait. Et je pense qu'il a pas insisté, ce qui est plutôt rare chez un bulldog qui justement revient souvent à plusieurs reprises. Donc je pense que c'est le choc qu'il a eu contre la planche et mon foil qui a fait que finalement il s'est dit que j'étais pas une proie intéressante, tout à fait à son goût.
Et Pierre, dites-moi aujourd'hui, comment vous avez métabolisé ce choc, cette violence, cette sidération?
Alors, métaboliser, le terme est très bien choisi, parce que justement, c'est quelque chose qui rentre assez profondément dans les cellules, je pense. Eh ben, il y a vraiment un après pour moi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'est venu assez rapidement derrière, c'est que j'avais la sensation d'avoir une nouvelle vie. Donc, j'ai vraiment vécu ça comme un bonus. Bon, après, ça s'est pas tout à fait terminé là, parce que je me suis battu pendant 500 mètres pour regagner le rivage, en me faisant traîner doucement par l'aile. Et j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que j'échappe à ça pour revivre, pour survivre, pour passer à autre chose, quoi. Donc quand je suis arrivé finalement sur la Terre, j'avais vraiment l'impression d'un cadeau bonus, quoi. C'était, j'aurais dû y rester, c'était clair, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il me finisse, on pourrait dire. Et en fait, non, ça s'est pas passé comme ça. Et je vois ça, on peut y attacher du spirituel, on peut y attacher tout ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, je vois vraiment ça comme une nouvelle vie, ouais.
Et encore aujourd'hui, vous avez ce sentiment du bonus ou vous l'oubliez petit à petit?
Je pense que c'est définitif. Je me dirai jusqu'à la fin de mes jours que j'ai une nouvelle vie. Ouais, ça, c'est encore aujourd'hui, c'est clair.
Et qu'est-ce que ça change dans votre vie, dans votre façon de vous comporter, peut-être avec les autres, avec votre famille?
Bah, évidemment, on profite plus de la vie parce que je ne me dis pas à chaque minute que c'est les derniers instants et qu'il faut profiter à fond. Mais par contre, on relativise pas mal de choses, oui, ça c'est clair. Et je pense qu'effectivement, on attache plus de valeur aux choses qui sont importantes, profondes, et on attache peut-être un peu moins l'importance à ce qu'on projette toujours pour le futur et qui finalement, des fois, on se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose parce que le futur ne se passe jamais vraiment comme on veut et il peut y avoir de l'inattendu et de l'imprévu.
Et Pierre, vous en avez fait des cauchemars? Vous avez vu un psy? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement pour vous aider?
C'est marrant parce que j'ai revu il y a 3 jours la première personne qui m'a recueilli sur le bord de la Terre et qui m'a, sur le moment, dit « Vous allez voir, vous allez faire beaucoup de cauchemars ». Et en fait, j'en ai fait qu'un seul. Je m'en souviens d'un très net où j'étais en train de faire la planche à la surface de l'eau et il y a une espèce de danger qui montait du fond des profondeurs de la mer et qui remontait. Il y avait une espèce de couleur orangée, c'était bizarre, mais je sentais nettement un danger. Donc j'ai fait un cauchemar et assez vite après l'événement et finalement plus du tout après. Mais par contre, j'ai pris le temps de faire 3 séances d'une thérapie brève pour gérer le choc émotionnel. Ouais. Mmh.
Donc en tout cas, ma dernière question, Pierre, après ce témoignage quand même assez terrifiant, est-ce que vous avez recommencé le kitesurf?
Oui, il y a pas mal de gens qui me posent cette question-là. Le kitesurf, c'est ma passion depuis 15 ans. Et en fait, dès que j'étais cicatrisé, parce que je suis passé au bloc, on m'a opéré, j'ai cicatrisé. Et un mois après, j'étais sur l'eau et je renavigue 2 fois par semaine depuis 3 ans. J'y suis régulièrement.
Eh bien, bravo et merci infiniment, Pierre, pour votre témoignage. Bon kitesurf. Et puis, dans quelques instants, nous serons avec un autre Pierre qui, lui, a survécu à une agression violente.
Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1. Pour la joindre et raconter votre histoire, appelez-nous au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Benjamin au standard est là pour vous accueillir ou noter tous vos messages. Dites-nous si vous aussi vous avez frôlé la mort et comment vous l'avez vécu. Loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. J'imagine que ces ennuis de santé ont été une source d'inspiration. En tout cas, cette chanson le laisse à penser. Le large de Françoise Hardy, Frôler la mort, comment s'en remettre? C'est le thème de votre émission aujourd'hui, Ève Roger, jusqu'à 16h sur Europe 1. Partageons nos expériences de vie au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec un autre Pierre. Bonjour Pierre, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Ève et Marlène.
Quel âge avez-vous Pierre et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 53 ans, je vous appelle d'une commune près de Rennes, de Melès.
Alors vous Pierre, vous avez appelé le standard d'Europe 1 pour nous raconter l'agression violente dont vous avez été victime il y a 7 ans, une agression à la machette, et c'était en Bretagne, racontez-nous.
Ouais, brièvement, parce que c'est vrai que l'histoire est longue, mais effectivement c'est un fait divers fort violent qui a fait la une des journaux à l'époque, et en fait moi j'ai croisé en fait la route d'un homme de 58 ans qui a une soirée, a eu une folie meurtrière, a tué deux personnes et en a blessé quatre gravement, dont moi. Donc, rapidement, moi, je suis agriculteur. J'allais à 21h le soir récupérer de la paille dans un champ. J'empruntais une route nationale, Melès-Rennes. Et je suis arrivé sur une voiture accidentée en milieu de route. J'étais le seul à ce moment très précis. Et puis, une personne en face de moi est arrivée, en sens inverse, un jeune de 25 ans. On s'est précipité vers la voiture et moi, ce moment très précis, j'avais qu'une envie, c'était sortir la personne, parce que la voiture était dans un sale état, sortir la personne de sa voiture, l'aider, enfin je venais secourir la personne. Donc rapidement, la personne est sortie par l'arrière de la voiture, hein, cet homme de 58 ans, pas plus énervé que ça en fait. Il nous a regardé, moi et le jeune, et à ce moment très précis, j'ai dit on va appeler les secours, je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais il me regardait sans rien me dire et il est retourné à sa voiture. Donc le temps de prendre mon portable et de baisser la tête pour appeler les secours, il est ressorti de sa voiture, de l'arrière de sa voiture avec une machette et nous a assommé à moi et aux jeunes un coup d'une violence inouïe. J'ai pas eu le temps de relever la tête et j'ai eu un coup de machette sur toute la joue et toute la mâchoire. Enfin,
vous avez été sauvé grâce au mouvement de votre tête quand vous avez regardé votre portable, en réalité.
C'est évidemment ça. Il nous avait regardé très rapidement. J'ai appris après que c'était un excellent joueur de tennis. Il avait la machette dans les deux mains et il visait évidemment la gorge.
Ah oui.
Si bien que j'aurais dû mourir dans les 2 à 3 minutes qui suivaient, parce que vu l'importance de la plaie, la carotide, je n'avais aucune chance de survie. Donc j'ai protégé ma gorge sans le savoir.
Comme un réflexe. Et vous avez eu le sentiment d'imminence de la mort ou c'est seulement après que vous êtes rendu compte que vous avez frôlé la mort?
Bien sûr, c'est après. C'est après où là, tout va très vite. On est très énervé. Surtout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc voilà, après, tout s'enchaîne très vite. Les pompiers arrivent, on est pris en charge. J'avais une plaie qui était vraiment pas belle. J'ai ce qu'on appelle une plaie transfixiante. Donc j'étais ouvert vraiment jusqu'à la langue et la lèvre complètement coupée, et ça finissait sur l'épaule. Donc
alors, on vous entend, vous avez récupéré toutes vos capacités, mais vous dites en même temps que vous ne vouliez pas que cette histoire vous hante. Ça, c'était il y a 7 ans. Comment vous avez fait pour empêcher que cette histoire vous hante, justement?
Eh bien, en fait, je me suis dit, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, tu n'as pas de chance, vraiment, tu n'as pas de chance. Enfin, j'ai un parcours plus ou moins difficile déjà jusqu'à présent, mais je me suis dit, moi, l'inverse, j'ai eu la sensation d'être un miraculé parce que je pense que ma vie pouvait s'arrêter ce jour-là, sincèrement. Et j'ai eu l'impression, et je pense que chaque jour qui est arrivé après est un jour que je n'aurais pas dû vivre. Donc, cette sensation d'être miraculé m'a fait voir la vie totalement différemment, quoi.
Et est-ce que vous avez été aidé pour ça? Parce que c'est un vrai mouvement de pouvoir ne pas tomber dans la dépression, dans l'anxiété.
Alors, j'ai vu à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, avait mandaté quelqu'un et j'ai fait 3-4 séances très rapidement. Mais ce qui m'a aidé le plus, je pense, c'est mon épouse à l'époque, mes filles et puis mes amis très proches qui ont été très présents, qui ont toujours su être là au bon moment et m'entourer. Ils savaient que j'avais cette capacité à repartir. Mais évidemment, tout seul, même avec la plus grande volonté, on ne s'en sort pas. Mais j'avais vraiment cette volonté de ne pas sombrer. Je sais très bien qu'on met peu de temps à descendre et beaucoup de temps à remonter. Les événements de la vie nous montrent que la vie n'est pas facile. J'avais à cœur de m'en sortir et je ne voulais pas que cet homme brise ma vie à tout jamais.
C'était la détermination, c'est ce qu'on entend dans votre voix. Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé peut-être de personnalité ou de priorité?
Tout a changé. Tout a changé. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un avant et un après. Moi, je suis quelqu'un de très positif. J'ai des amis comme moi, très positifs, avec qui on ne s'embête pas sur des choses banales. Il n'y a que les choses importantes qui ont une valeur, l'amitié, l'amour évidemment de ses enfants, de ses partenaires, mais c'est surtout de pas passer à côté des vraies choses de la vie et de pas se pourrir la vie sur un tas de choses.
Mais ça, c'était vrai avant aussi, sans doute, non, un peu?
C'est-à-dire qu'avant, j'étais quelqu'un d'optimiste, mais je pense comme tout le monde, comme tout à chacun, dans le cadre de ses activités, on se pose beaucoup de problèmes sur des choses qui sont à la fois pas très importantes. Quand on a la sensation d'être un survivant, je peux vous dire que chaque jour est important, chaque minute qui passe, et que la vie est un cadeau et qu'il faut absolument ne pas gâcher cette vie, quoi.
Très très joli message, merci beaucoup Pierre de nous avoir fait partager cette expérience là aussi assez terrifiante. Nous serons dans quelques instants en studio et en direct avec Antoine Pellissolo. Il est chef de service en psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et auteur de Vous êtes votre meilleur psy aux éditions J'ai lu.
Et Olga nous a laissé un message au 3921, elle nous écoute depuis Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Elle nous dit: j'ai eu un accident de voiture il y a 10 ans, un trauma crânien. Je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé. La seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais enfermée et que je voulais sortir. Je voyais des nuages. Les images me reviennent même maintenant. J'ai les images devant les yeux.
Europe 1.
N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler au standard d'Europe 1. 50 centimes d'euros la minute, je vous le disais. Vous nous laissez un petit message, on vous rappelle si vous voulez témoigner. Mais vous pouvez simplement aussi nous laisser un petit message. Et puis, il y a les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, partageant nos expériences de vie, et Twitter avec le hashtag Europe 1. Cette pièce de piano, Eve, s'appelle Slow Down, composée par Thomas Zaruba. Il était cadre à la Défense, il est devenu musicien de jazz après les attentats du 13 novembre. Ce soir-là, il devait rejoindre des amis à la terrasse du Carillon. Et puis, eh bien, ce morceau est simplement un hommage aux victimes. Alors, on parle de la mort, mais quand on a frôlé la mort, d'ailleurs, vous posez la question, comment s'en remet-on? Eve Roger, on en parle jusqu'à 16h sur Europe 1.
Et je me tourne maintenant vers vous, Antoine Pellissolo. Bonjour, vous êtes chef de service en psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et spécialiste des troubles anxieux sévères. Merci infiniment d'être avec nous en direct et en studio cet après-midi sur Europe 1. Alors, dites-nous déjà si le fait de frôler la mort fait le même effet à tous, qu'on soit victime d'un accident de requin ou d'une agression à la machette, comme nos deux pierres qu'on vient d'entendre. Il y a un avant et un après. Est-ce que c'est pour tout le monde la même chose?
Et non, en tout cas, chacun va réagir différemment. Le fait qu'il y ait un avant et après, oui, sûrement, parce que quand c'est des événements suffisamment forts comme cela, ça va marquer toute la vie, probablement. Par contre, la manière de le vivre, la manière d'en souffrir éventuellement, ou pas, parce que visiblement, nos deux pierres, là, ont été des bons exemples de très forte adaptation positive à ça, va dépendre de tout un tas de caractéristiques de chacun, notamment de la personnalité et de la manière dont on appréhende habituellement le danger et la vision de la mort, et surtout aussi de la nature quand même de l'accident, parce que là, il y a des points communs entre les deux accidents, c'est que c'est des choses qui sont arrivées très soudainement, mais de manière assez brève. Lorsque la confrontation avec le danger dure des minutes et des heures, c'est quand même très différent. Et selon les cas, selon la perception de la maîtrise de la situation, on peut aussi avoir des réactions ultérieures très différentes.
Mais c'est vrai qu'ils disent tous les deux la même chose, on relativise, on mesure notre chance, on profite de la vie. Ça, c'est une vision très optimiste. Alors
Là, c'est vraiment la version positive d'un choc qui, sur le moment, a été douloureux, évidemment, on peut le présumer, mais qui a été utilisé de manière positive parce que, probablement, ça correspond au fonctionnement de ces deux personnes et à leurs ressources qu'elles avaient à ce moment-là. Le fait de pouvoir dire, en fait, plutôt que de garder le souvenir très traumatisant du fait d'avoir s'être vu mourir, on va garder le fait d'en être sorti.
C'est
un soulagement qui devient quasiment finalement une bonne nouvelle. Alors que quand ils racontent leur histoire, c'est vrai
terrible.
qu'elle fait pas envie au départ.
Et pourquoi, moi je me pose la question, pourquoi voir la mort de près, ça nous bouleverse tant, alors qu'on sait qu'on va mourir? Pourquoi c'est si terrifiant?
Alors, ça emmène très loin sûrement des réflexions quasi philosophiques, mais au plan psychologique, c'est évident ce que vous aviez dit en commençant, c'est que jusqu'à en tout cas un certain âge, l'idée de la mort n'est qu'une idée, quelque chose de très lointain. On est immortel quand on est petit, c'est simple, et surtout dans nos sociétés où on voit de moins en moins la mort en direct, en vrai, par la télé, mais autour de soi. Et donc, pendant des années, on vit avec l'idée que les choses arriveront un jour, évidemment, on n'est pas complètement inconscient, mais ça n'existe pas dans son quotidien. Et lorsqu'on est vraiment en face d'un événement où, alors ce que je disais, le Pierre de Nouméa, je crois que c'est le premier qui disait mon cerveau a enregistré que j'étais mort. Ouais. Bon, c'est une façon de modéliser ça. C'est lui-même qui s'est dit qu'il était mort. Et ça, c'est la première fois dans sa vie sûrement où c'est arrivé. Il faut espérer à peu près la dernière avant longtemps. Et c'est ça qui fait tout. Et c'est le langage d'ailleurs qui est important dans ces cas-là. Le fait de mettre des mots sur les choses, si vous avez dit je suis mort, c'est compliqué ensuite d'enlever ça de vos têtes. À un moment donné, vous avez dit je suis mort. Donc selon les cas, ça va être une emprise très forte. Dans d'autres cas, il y a je suis mort et puis tout d'un coup, non, je ne suis pas mort et je suis vivant. Et c'est ça qui fait que d'emblée, on repart sur une autre perspective.
Je vous ai vu sourire à ma question sur la vie qui défile sous les yeux. C'est un mythe ou c'est une réalité, cette histoire de...
Difficile à savoir, parce que je n'ai pas cette expérience-là. Ouais. Je pense que c'est sûrement l'expérience rapportée par des gens qui ont peut-être pas frôlé la mort, mais qui ont eu peur de frôler la mort. Et dans ce cas-là, il y a des mécanismes supplémentaires qui sont tout ce qu'on va pouvoir se dire, qu'est-ce qui va arriver aux autres et qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie. Enfin, sûrement des phénomènes psychologiques compliqués. À part ça, ça reste dans le mystère du cerveau et de l'âme qui va ensuite aller ailleurs, si c'est le cas.
Si, quand on a un accident de voiture, un AVC, une crise cardiaque, quelque chose comme ça, est-ce qu'on a toujours ce qu'on appelle un stress post-traumatique, comme on a vu avec les attentats du Bataclan du 13 novembre, ou c'est pas obligatoire?
Non, heureusement, ce n'est pas obligatoire. Alors, les fréquences varient beaucoup selon des caractères personnels et des événements. Ça va de 10 à 20% pour des... Alors, toujours, on parle d'accident grave. Hein. On ne parle pas d'un petit stress ou d'un événement déplaisant qui peut être très gênant, mais qui n'a pas ce caractère. Mmh. Le caractère de danger qui développe un stress post-traumatique, c'est quand vous pouvez mourir, vraiment. Alors, c'est un peu par procuration. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir, ça peut faire exactement le même effet. Mais c'est vraiment le risque vital qui est en jeu. Ce n'est pas juste une souffrance. Et ce risque-là, plus il est violent, plus il est incontrôlable, donc sentiment d'impuissance, parfois même de culpabilité après, parce qu'on n'a rien fait, etc., pour l'aider les autres. Et puis, plus il est durable, quand même, plus ça peut générer...
Plus ça dure longtemps.
Plus ça dure longtemps, parce qu'effectivement, pendant des heures, si on se sent... l'exemple du Bataclan, c'est vraiment typique, des personnes qui sont restées des heures en se disant qu'elles allaient mourir et qu'elles ne pouvaient rien faire contre. Évidemment, ça amplifie le phénomène d'impuissance et d'effroi. Et puis, le dernier paramètre, c'est aussi la cause. Parce que les causes qui sont liées à des personnes, à des intentions malveillantes d'un agresseur, sont beaucoup plus pénibles, plus que pénibles, insupportables que celles qui viennent d'une catastrophe naturelle, par exemple. On a moins de stress post-traumatique.
Il y a moins l'intention négative de quelqu'un.
Voilà.
En préparant cette émission, j'ai parlé à un ami qui a eu une crise cardiaque très grave et qui m'a dit « je ne sais pas quoi en faire ». Alors, est-ce qu'il faut toujours faire quelque chose de ce type d'événement ?
Ah, c'est à réfléchir. Je pense que s'il se pose la question, c'est qu'il y a un petit problème, mais pas forcément grave. Effectivement, c'est un événement de la vie. On sait que la mort fait partie de la vie, donc pour ne pas avoir peur de la vie, il faut théoriquement ne pas avoir peur de la mort. Donc c'est autour de ça que je pense qu'il y a une réflexion à mener.
Bon, restez avec nous, Antoine Pellissolo. Je rappelle que vous êtes le chef du service psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et auteur de « Vous êtes votre meilleur psy » aux éditions J'ai lu. Dans quelques instants, nous allons accueillir Liseron. Elle est reporter de guerre et elle a choisi de risquer sa vie pour sa passion.
Un petit témoignage de Solène Eve qui nous écoute et qui nous dit « J'ai frôlé la mort de très très près par chance, j'ai été épargnée et ça a été le début du reste de ma vie. J'ai cessé de me plaindre pour un oui, pour un non et depuis la chance me sourit, je suis devenue le changement que je voulais voir autour de moi. »
Europe 1.
Et si vous aussi vous souhaitez réagir et partager votre expérience, avez-vous déjà frôlé la mort ou avez-vous été témoin de quelqu'un qui a frôlé la mort? Comment s'en remettre? Racontez-nous au 3921 à l'antenne en direct ou alors tout simplement en nous laissant un message. Benjamin est là pour recueillir tous vos messages. On en lit bien sûr quelques-uns à l'antenne. Et puis il y a les réseaux sociaux, hashtag Europe 1 sur Twitter et la page Facebook. La page Facebook de l'émission Partageons nos expériences de vie. Et nous sommes avec Eve Roger jusqu'à 16h. On parle aujourd'hui de ceux qui ont frôlé la mort, vu le gouffre de près et qui vivent aujourd'hui avec le sentiment permanent de la fragilité de la vie. Et on attend vos appels au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Liseron. Je peux même donner votre nom de famille. Pour ceux qui regardent TF1, vous connaissent bien Liseron Boudoul. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors quel âge avez-vous, Liseron? Parce que c'est comme ça qu'on commence toujours nos interviews. Et d'où nous appelez-vous?
Alors, je vous appelle de Haute-Loire.
D'accord.
C'est ma région d'enfance et c'est là que je viens me reposer et rencontrer ma petite famille. Alors, je ne travaille pas.
Je l'ai dit, vous êtes reporter de guerre et vous avez souvent côtoyé la mort. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter l'épisode où vous avez failli mourir en Syrie pendant la bataille d'Alep en 2012?
Oui, c'est ça, la bataille d'Alep, c'est-à-dire que, en fait, je suivais un groupe de révolutionnaires, comme on les appelait à l'époque, qui se battaient pour la liberté contre le régime de Bachar al-Assad. Et lors d'une petite visite de la vieille ville qui était sous le feu, tout à coup, on a été hébergé par des habitants le soir parce qu'il fallait se réfugier chez des habitants pour pas se faire repérer. Et tout à coup, une immense explosion à 5h du matin qui fait éclater les fenêtres, le plafond se brise, le chef de famille arrive, les yeux hagards, tout le monde était apeuré. Et là, on a compris que c'était un avion qui venait de larguer une bombe tout à côté de ma maison. Il y a un cratère de 3 mètres de profondeur. Et c'est là que tout à coup on entend l'autre avion qui arrive. On se dit bon voilà, c'est foutu quoi, c'est pour nous, on a été repérés. Ouais. Puisque faut pas oublier que pour le régime de Bachar al-Assad, un journaliste est plus dangereux qu'une Kalachnikov. Et on a à peine eu le temps de partir en courant dans les petites ruelles, et là ce fut un déluge de feu jusqu'à ce qu'on arrive à notre voiture. Et on s'est dit ben ça y est, c'est fini quoi. Mon caméraman et moi, on était pétri de peur. Notre guide, qui était en fait notre chauffeur, priait par terre, et on a réussi à s'en sortir par je ne sais quel miracle. On va dire qu'il y avait une petite étoile. On a réussi à atteindre notre voiture et à quitter Alep par des petits trucs que connaissait notre chauffeur, et on a échappé à la mort.
Voilà. Et quel sentiment vous avez éprouvé après cet épisode? Est-ce que vous avez dit bon, j'arrête tout, maintenant j'ai été trop loin?
Non, parce que en fait, c'était une mission qui a duré une semaine dans Alep et puis les petits villages autour qui étaient en guerre contre l'armée de Bachar al-Assad. Et donc, on avait réussi à entrer en clandestin, puisque en fait, on rentre par la Turquie en journaliste clandestin. Et c'est l'exercice le plus difficile dans ce métier, un journaliste clandestin dans un pays en guerre. Donc, on sait qu'on peut ne pas revenir, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on peut perdre une jambe. Enfin, voilà. On sait qu'il y a des risques énormes. Mais voilà, quand on y va, on accepte. On accepte pourquoi? Parce que le devoir, la soif d'informer, finalement, est plus fort que tout, est plus fort que la peur, même la peur de mourir. Donc, bien sûr qu'il y a de l'adrénaline, bien sûr qu'il y a une espèce de d'orgueil à aller là où les autres ne vont pas, mais c'est pas le plus important. Enfin, en tout cas pour moi et pour mon caméraman qui en général me soutient et me suit, l'idée c'est d'aller chercher l'info là où il faut aller, parce que c'est notre devoir.
Mais vous dites, on le sait, la liberté
d'informer finalement est plus essentielle que tout quoi.
Vous dites on le sait, on est préparé, mais est-ce que vous êtes vraiment préparé, c'est-à-dire vous voyez quelqu'un avant de partir, un psychologue ou quelque chose, c'est un travail que vous faites toute seule?
C'est un travail qu'on fait toute seule, mais c'est surtout un sentiment, une envie intérieure, qui crée peut-être une force qui fait que même quand on sait qu'il y aura un risque, comme je vous le dis, on a cette envie, on a cette passion de ce métier qui est d'aller là où il faut aller, même dans les conditions les plus extrêmes, parce que si on n'y va plus, qui va apporter des témoignages sur ces endroits où il se passe des horreurs? Et puis les populations locales ont besoin qu'on vienne. Donc c'est ça qui fait, c'est l'amour de ce métier aussi.
Oui, vous dites
qui fait qu'on dépasse ses doutes et sa crainte.
Vous dites aussi que ce qui vous aide, c'est de prier, que vous êtes très croyante. Alors ça joue
oui,
aussi?
Oui, moi je suis croyante, c'est pas quelque chose que je dis en me cachant d'ailleurs. Donc ça m'aide beaucoup, je prie tout le temps. et je prie quand je suis en mission, quand je sens que le moment va être difficile, ou quand l'épreuve est là et qu'il faut quand même arriver à sortir un reportage.
Mais et vous priez pour que ça se passe bien, ou vous priez parce que vous sentez vos derniers moments arriver?
Non, je prie parce que je suis croyante et que je sens que sur cette terre, j'ai peut-être une mission qui est la communication, la communion dans la communication. Et je vis avec ça, mais c'est ma vie personnelle, donc voilà.
Et Lison Boudoul, est-ce qu'une fois de retour en France, vous parvenez à retrouver... Enfin, j'ai écrit une vie normale, mais je ne pense pas que ce soit possible. Et est-ce que ça ne vous semble pas fade, la vie ici?
On ne revient jamais indemne d'une mission où on a risqué sa vie et où surtout on a rencontré des personnes incroyables qui, eux, prennent des risques pour leur vie chaque jour. Nous, on part et on revient en général. Enfin, quand on a de la chance, on revient. Ouais. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des collègues qui ne sont pas revenus. En Syrie, j'ai perdu 3 de mes collègues. Et bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et finalement, là, encore une fois, je me suis dit, mais il faut y aller, parce que sinon, La bataille de Mossoul, par exemple, là où mes deux collègues de France 2 sont décédés avec leur guide, Bakar, c'était Daesh qui gagnait si on n'y retournait pas. Donc, à un moment donné, il y a des questions essentielles, des valeurs essentielles qui font qu'on dépasse le doute et qu'on se dit, eh ben on y va quand même et puis on va être fort et on va faire en sorte que la chance soit
avec nous tout le temps. Il faut y aller, c'est ça. Et Lison Boudoul, que faites-vous pour pas être hanté par ces images comme ça de morts, de cadavres, des images violentes comme ça? Quelles sont vos... Comment vous faites?
Je n'ai pas de recette particulière. Mmh. J'essaye d'avoir une vie d'équilibre et puis de raisonnement sur ce que j'ai vu. Et puis, je ne quitte jamais, en fait, les endroits que j'ai visités. Je reste en liaison avec les personnes que je rencontre. Ce qui fait que tout ça crée une espèce d'émotion perpétuelle à l'intérieur de ma vie qui me plaît assez, puisque j'ai l'impression que je vis une vie assez forte. Et c'est ce que j'ai choisi. Donc, finalement, tout ça me convient assez à ma personnalité. Donc, j'ai pas de problème particulier à évacuer des images, puisque ces images sont ma vie. Et je l'ai choisi, voilà. et c'est un privilège énorme. Et donc, je m'enrichis aussi de toutes ces rencontres, de ces perles d'humanité à travers le monde que moi, j'ai l'occasion de rencontrer. C'est pour moi une richesse, quoi. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Lison Boudoul, pour votre témoignage de cette vie intense. Et je signale à nos auditeurs que vous avez publié un livre avec 4 de vos consoeurs, Elles risquent leur vie, aux éditions Talendier. Merci beaucoup, à bientôt. Dans quelques instants, nous serons avec Agnès. Vous allez l'entendre, elle a survécu à un cancer du sein et depuis, sa vie a bien changé.
Et merci à Jean de Thil en Haute-Garonne qui nous a laissé un petit message au 3921. Il nous dit « J'ai eu un accident d'avion très grave. Je suis pilote, c'était un avion privé. J'ai percuté une forêt. Je suis tombée de 30 mètres de haut. J'ai eu les poignets cassés et une grosse plaie à la tête. Mais sinon, tout va bien. Après l'accident, je n'ai eu aucune aide psychologique. J'aurais aimé qu'on me prescrive des consultations. »
Europe 1.
Vous pouvez, comme Jean, nous faire partager votre expérience. Vos témoignages sont précieux. Le sujet, c'est vrai, est délicat. Frôler la mort, comment s'en remettre? Vous pouvez aussi publier un petit commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Allez, on continue d'en parler sur Europe 1 jusqu'à 16h. Avril Lavigne a failli mourir à cause de la maladie de Lyme et elle le chante dans la chanson Head Above Water, dont on vient d'entendre un extrait à l'instant jusqu'à 16h. Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger. On parle de ces personnes qui ont frôlé la mort. Comment s'en remet-on? On va passer à un nouveau témoignage.
Nouvelle auditrice, 3921. Agnès. Bonjour Agnès, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, bien, merci.
Quel âge avez-vous, Agnès, et d'où nous appelez-vous?
Je vous appelle de Paris, de mon portable. J'ai 55 ans, voilà.
Alors Agnès, vous n'avez pas eu un accident grave et brutal. Vous avez eu un cancer du sein, donc une maladie longue. Oui. C'était il y a 5 ans. Vous dites que ça a été un tsunami. Oui. Et ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est que vous dites qu'il y a vraiment eu un avant et après, que la vie a changé pour vous. Vous avez changé votre mode de vie.
Oui, j'ai changé. C'est vrai que c'est un tsunami. Alors il y a le avant, effectivement, tout ce qui s'est passé avant. Et puis il y a le pendant, c'est-à-dire qu'il y a la lutte, il y a la bataille contre cette maladie. Et puis il y a le après, c'est la reconstruction d'abord du corps, parce qu'on a quand même été un petit peu abîmé. Et puis après, il y a la renaissance, ce que j'appelle la renaissance. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'esprit reprend le dessus, la vie reprend ses droits. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. On n'approche pas les choses de la même façon. On ne s'encombre pas des choses inutiles. Mmh.
Vous dites, vous savez dire non maintenant.
C'est ça? Oui, exactement. Je sais dire non. Je ne savais pas forcément dire non parce qu'on veut toujours faire plaisir. On se laisse un peu mener dans sa vie, ce qui est tout à fait logique. Mais on le fait avec plaisir. Et puis, il y a des moments maintenant, eh bien, il faut que les gens comprennent qu'on a besoin de se retrouver soi-même, des moments pour soi, c'est de l'égoïsme un peu mesuré, ce que j'appelle.
Oui, ouais. C'est aussi aller direct à l'essentiel, de ne pas s'encombrer de choses inutiles.
Exactement, et d'être aussi un peu plus forte malgré la vis-à-vis des événements qui arrivent et malgré la fragilité intérieure que l'on a toujours. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on va à l'essentiel, on ne s'encombre plus ni des gens d'ailleurs, c'est pas très gentil, mais on ne s'encombre pas non plus des gens qui sont toujours défaitistes ou qui sont toujours à se plaindre ou qui vous émettent un peu des
ondes négatives, c'est ça?
Exactement.
Parce que allez-y.
Oui, pardon. Allez-y, je vous en prie.
Je me demandais si vous, quand on parle de frôler la mort, vous, c'est plus que frôler, c'est-à-dire que vous l'avez côtoyé pendant de longs mois, peut-être.
Voilà. Moi, c'est quand j'ai appris, effectivement, j'ai eu l'impression, la coulée, la sueur froide, parce que j'étais en face de mon petit garçon qui avait 6 ans, et c'est vrai que lui, je ne pouvais pas tout lui dire. Donc, en même temps, je devais partir en vacances avec lui. Je lui disais, ben non, on ne part pas tout de suite. Il était prêt à partir avec sa valise. Et je recevais en même temps l'information par téléphone que ce n'était pas bon du tout et qu'il fallait très rapidement aller
faire quelque chose. Est-ce que ce sentiment de la mort, ça a été pendant ce moment-là seulement ou tout le long de votre guérison?
Non, ça a été là sur le moment. Et puis, ça a été tout le long de la guérison? Non. C'est jusqu'à temps que je puisse être opérée, que je suive le traitement, j'ai eu cette sensation. Et puis après, avec le traitement, les équipes médicales et toute la chance qu'on peut avoir parce qu'on est prise à temps, parce qu'on n'a pas de métastase, parce qu'il y a aussi le facteur chance aussi, comme partout, mais là, il y a un grand facteur chance. Et je me suis sentie protégée parce que j'étais entourée d'une équipe médicale. Et si vous voulez, je ne pensais même plus à la limite à la mort, je pensais à me battre, à lutter et à gagner.
Alors, je vais me tourner tout de suite vers Antoine Pellissolo, notre invité qui est psychiatre. Est-ce que, quand on côtoie la mort quand on est une maladie comme ce cancer du sein, comme Agnès, est-ce que c'est la même chose qu'un choc traumatique quand on voit la mort arriver?
Alors, il y a souvent le choc, effectivement, de l'annonce, évidemment, le moment où on va vous dire vous avez une maladie potentiellement grave, parce que c'est, en tout cas, dès qu'on parle de cancer, c'est ça qu'on a tous en tête. Et donc, ce moment-là peut être, évidemment, traumatisant. Et dans un deuxième temps, il y a ce parcours d'incertitude, et souvent qui est difficile, c'est un parcours d'obstacles, les soins de la maladie, qui est vécu là aussi un peu différemment par chaque personne et dans la manière dont il va investir ce projet. Pour certains, c'est on se lance à fond dans le traitement avec une espèce de déni des choses et c'est une façon de se protéger. Pour d'autres, c'est plus douloureux, mais le fait d'être accompagné et surtout le fait de pouvoir mettre en mots tout ça, parce que vraiment l'essentiel, c'est
il faut consulter quelqu'un pendant ces moments-là.
Consulter quand on a besoin d'une aide professionnelle, mais ça peut être aussi juste de pouvoir avoir des échanges avec son entourage, avec éventuellement les professionnels. Mais c'est évident que là, il y a un chemin qui permet de se concentrer sur, en gros, plutôt l'avenir et donc garder de l'espoir quand il y en a, plutôt que de rester bloqué dans une espèce de non-dit qui est celui de...
Je risque de mourir.
Je pense qu'à ça, voilà. Mm-hmm.
Alors, merci beaucoup Agnès pour votre témoignage qui a dû résonner chez beaucoup de nos auditeurs. Vous aussi, vous avez tiré un livre de cette expérience, si on veut aller plus loin. Ça s'appelle « Les silences murmurés » aux éditions du Panthéon. Et pour conclure cette émission, nous allons accueillir Romain. Lui a eu un accident de chantier et s'est retrouvé enseveli sous 7 tonnes de goudron.
On aimerait pouvoir lire tous vos témoignages à l'antenne. Malheureusement, ce n'est pas possible. En tout cas, Sophie nous a laissé un message au 3921. Elle nous dit « J'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai traversé le périphérique et j'en suis sortie indemne. La voiture était morte. C'était un miracle. Une autre fois, j'ai été laissée pour morte suite à la suite d'une agression physique très grave. J'ai vécu un coma de 48 heures. Il y a eu une enquête d'un an et demi et l'affaire a été classée sans suite. Mais je suis vivante. La mort ne veut pas de moi. »
Europe 1.
Et vous pouvez continuer à réagir sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter avec le hashtag Europe 1. Petit commentaire également sur la page Facebook de l'émission. Avez-vous déjà frôlé la mort? Comment s'en remettre? C'est le thème de l'émission avec vous, Eve Roger. Jusqu'à 16h, encore quelques minutes, on accueille votre dernier témoignage.
Et oui, pour conclure donc cette émission, nous avons avec nous Romain. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bon, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous, Romain, et d'où nous appelez-vous?
Je viens de Compiègne et j'ai 29 ans.
Alors Romain, racontez-nous cet événement terrible qui vous est arrivé en 2017.
En fait, j'ai été dans une équipe où on refaisait les routes.
Ouais.
Et donc là, on était envoyé en mission pour refaire un parking d'une maison de retraite. Ouais. Tout se passait bien et il nous restait deux passes à faire. Et j'ai pris ma brouette et je me suis mis derrière le camion. J'ai dit au chauffeur de lever la benne et au lieu que la petite trappe soit ouverte, en fait, c'est la grande porte du camion qui s'est ouverte accidentellement ou on ne sait pas comment. Et j'ai eu une vague déferlante d'enrobés tout autour de moi.
D'enrobés, c'est ce qu'on appelle, c'est du goudron, c'est ça? C'était du goudron brûlant qui vous est tombé dessus.
7 tonnes à 150 degrés.
À 150 degrés. Donc, qu'est-ce que vous avez senti à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce que vous avez compris à ce moment-là, j'allais dire?
J'ai vu ma vie basculer et je pensais que c'était la fin. Je pensais que j'allais mourir dans le tas de goudron.
Et vous avez eu le temps de vous dire je vais mourir? Parce que ça a dû être
terrible. Oui, parce que je suis resté 10 minutes dans le tas de goudron. Je suis resté 10 minutes à peu près.
Et vous avez eu le temps de réfléchir? Vous pouviez réfléchir à ce moment-là?
Oui, j'ai pas perdu connaissance et heureusement, sinon j'y passais. J'y passais clairement, mais mes collègues sont intervenus très très rapidement dans la seconde qui est arrivée.
Je reviens à ces 10 minutes. Pendant 10 minutes, ça doit paraître terriblement long. Donc à ce moment-là, quoi vous réfléchissiez?
À tout, à vie, à ma vie. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai aidé mes collègues aussi.
Vous étiez actif. Vous étiez actif pour sortir de là. Donc, entre-temps, vous avez été plongé dans le coma. Ça fait à peu près 2 ans que c'est arrivé. Vous êtes en pleine rééducation. Alors, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que vous êtes un rugbyman. Est-ce que ce mental de sportif vous a aidé pendant la période de rééducation, pendant l'accident, puis après?
Oui, clairement. De toute façon, les chirurgiens à Percy m'ont dit si j'avais pas fait de rugby, si j'étais pas jeune et en bonne santé, j'y passais quoi. Mais oui, et vu que le rugby c'est un sport d'homme, donc on connaît la difficulté à jouer à ce sport. Donc moi j'étais habitué à m'envoyer quoi, à me dépasser physiquement et mentalement. Donc
ça vous a aidé?
Oui, ça. Ça m'a aidé, je crois que
ça vous a sauvé.
C'est ça qui m'a sauvé, qui m'a sorti du coma, qui m'a aidé à surmonter toutes les épreuves.
Et Romain, est-ce que vous avez le sentiment que depuis cet accident, vous avez changé de personnalité? Est-ce que vous avez changé intérieurement?
Intérieurement, non, mais la vision de la vie a changé plutôt tout, quoi. On se plaint plus, on se prend moins la tête, on vit la vie, quoi, parce qu'on en a qu'une et j'ai vaincu la mort et j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort et j'ai envie d'avancer, quoi.
Je me tourne vers Antoine Pellissonneau, notre invité. Ils sont incroyables, nos auditeurs.
Oui,
on a l'impression que tous, ils ont une vision optimiste de la vie aujourd'hui.
On voit aussi bien des facteurs qui peuvent expliquer ça. C'est la préparation d'un côté, Liseron qui avait un engagement et pour lequel elle a donné du sens à ces confrontations. Le plus dur, c'est des gens qui n'ont pas pu donner du sens à ce qui leur est arrivé. C'est ceux-là qui souffrent le plus en général. Mais quand on est préparé mentalement et un peu physiquement, là, comme Romain, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes capacités physiques face au stress et à l'adversité, effectivement, on s'en sort mieux, et tant mieux. Mais il faut penser aussi à tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas ces capacités-là, n'ont pas été préparés quand c'est des choses qui tombent dessus sans prévenir. Et c'est ceux-là qu'il faut aider le plus parce que, malheureusement, souvent, quand ce n'est pas dépisté à temps, les syndromes de stress post-traumatique là, en question peuvent apparaître progressivement après et laisser des traces là, négatives quand même, malheureusement, durablement.
Donc si vous deviez donner un conseil peut-être pour terminer l'émission, Antoine Pellissolo?
Alors c'est évidemment, quand on a vécu ce genre de choses, d'accepter l'idée peut-être d'être vigilant et d'en parler à un spécialiste quand on a l'impression que les choses tournent mal, surtout autour des cauchemars et du souvenir qui revient en boucle. Il faudrait prendre plus de temps pour détailler ça, mais c'est vraiment les flashbacks, le fait de l'impression que les choses reviennent comme si on était à nouveau dans la situation, avec le même danger, alors que ça peut être 6 mois après, parfois des années après.
Donc consulter un psy, c'est pas obligatoire, c'est quand on a ces signes-là?
Quand on a l'impression que tout se passe bien sur le moment, quelques séances, je crois que nos premiers auditeurs ont dit que 2-3 séances avaient été assez intéressantes, utiles, mais ça peut s'arrêter à ça. Par contre, quand on a l'impression de souffrir ensuite des mois et des mois, il ne faut pas trop tarder.
Ok, merci beaucoup Antoine Pellissolo. Merci beaucoup Romain, je vous dis au revoir et bonne chance pour la suite de nous avoir fait partager votre expérience que vous avez racontée dans un livre aussi, Ne sifflez pas la fin, le match de ma vie aux éditions Les Lumières de la Ville. Merci aussi à nos deux Pierre, à Liseron et à Agnès de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Et à vous Antoine Pellissolo pour votre éclairage. Grâce à vous tous, nous avons compris que côtoyer la mort de près, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas, peut provoquer un vrai bouleversement dans sa vie, changement de personnalité, changement de cap. Et qu'il faut parfois en profiter pour se remettre en question, choisir de nouvelles priorités pour vivre en meilleure connexion avec soi-même. Mais ce traumatisme doit être dépassé et pour cela, plus il a été brutal et violent et plus il faut le traiter. Parler déjà très vite de ce qu'on a vécu avec un spécialiste, on l'a dit, même si le besoin ne s'en fait pas forcément sentir. Pour commencer tout de suite à mettre des mots et donc de la distance avec ce choc, l'alléger de sa charge émotionnelle au fur et à mesure. Pour qu'au bout, peut-être d'un an ou deux, ce ne soit plus qu'un mauvais souvenir et qu'il ne se réactive pas à la moindre occasion. Et puis, il faut aussi que l'entourage sache qu'il ne faut pas dire « oublie, tourne la page, passe à autre chose, surtout pas ». Il faut accompagner son proche sur le chemin de la guérison qui ne passe pas par l'oubli. Le traumatisme fait partie de soi, de son histoire, il est là. Il restera là, mais bien traité, il ne fera plus souffrir.
Et vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission sur la page Facebook. Europe 1.
Demain, un tout autre sujet, nous demanderons si nous pouvons apprendre à mieux faire l'amour. En clair, à devenir plus compétent sexuellement et donc avoir plus de plaisir. Et pour nous guider, nous aurons une invitée exceptionnelle, Maya Mazorette, que tous ceux qui lisent la matinale du Monde le dimanche connaissent bien. Alors, si vous sentez que vous n'êtes pas au top sexuellement, mais que vous ne savez pas comment faire pour vous améliorer, si vous avez découvert une méthode d'apprentissage qui vous a aidé à progresser, ou si au contraire, vous pensez que vous avez acquis toutes les compétences et que vous n'avez plus rien à apprendre, venez partager vos astuces. Appelez-nous au 39-21 pour témoigner, nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque et Caroline Baudry pour la préparation périlleuse de cette émission. Merci à Boris Paczynski à la réalisation et merci à vous, Marlène.
C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, Eve.
Alors je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny. Bonjour Karima.
Bonjour Eve, bonjour Marlène, bonjour à tous.
Bonjour. Alors aujourd'hui, pas d'invité, mais gros programme.
Bah, des invités, on en a tous les jours. Les auditeurs d'Europe 1 sont quand même co-programmateurs de l'émission. Absolument. Donc on va passer un bon moment ensemble. Énormément de découvertes au programme de l'émission. On va voyager, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Alors je vous souhaite une bonne émission.
Merci beaucoup.
Et moi je vous dis à demain.